Qui jouez-vous normalement de la musique?
Pour Bobby Lapointe.
Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe?
C'est ça, ouais.
Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne?
Moi, je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs.
Vous avez fait des études, vous?
Oh, j'ai raté mon certificat d'études.
Ça doit être étonnant quand même de jouer comme ça, hein, à la Sorbonne.
Oui, j'avoue. C'est tout même assez difficile de discuter de jouer, mais enfin.
Et vous serez là tous les jours si les étudiants le demandent?
Peut-être, oui. Pourquoi pas. De toute façon, comme il y a de coopérer.
Je me trouve actuellement sur le plateau de l'Odéon, au milieu d'une foule assez innombrable. Tous les mezzanines, toute l'orchestre est plein.
Il y a des commissions qui font un travail énorme sur ce problème.
16h10. Le plus important. Un bruit court, c'est-à-dire que la Sorbonne aurait décidé d'appeler à l'occupation de toutes les usines de France les ouvriers des grandes entreprises telles que Sud Aviation, Renault, etc. Toutefois, cette décision n'a été prise que par 15 personnes en commission et elle est contestée par Alain Josmar. Un bâtiment public serait pris chaque soir par les manifestants.
Réposition sur d'entre eux dans cet établissement qui va nous prendre des décisions communes. Vous la saurez par la presse ou par mon représentant. Fin du procès. Je voudrais signaler.
Le 22 mai, boulevard Saint-Michel, un étudiant, un ouvrier CGT d'Alsace, des passants.
Tout est parti de là. Il n'y aurait rien eu.
À ce moment-là, si vous parlez comme ça, ils ont une cervelle de moins d'autres.
Pourquoi les étudiants ont fait des barricades? Parce qu'il y avait des flics à la Sorbonne. Partez de là. Pourquoi voulez-vous faire dire aux étudiants ce qu'ils ne disent pas?
Mais ils ne sont pas fait massacrer pour eux.
Mais ils se sont fait massacrer parce qu'ils voulaient occuper pacifiquement le quartier latin et les flics ont décidé à 2h15 de passer dedans. Réaction de défense, des coups, solidarité.
Et là-dessus, on parle de réforme universitaire.
Et à ce moment-là, l'évacuation des locaux, d'opposition de force. Mais il n'y a pas de volonté de changement de la société.
Tout le monde sait bien que.
Il y a vaguement des protestations confuses contre la société de consommation, c'est tout. Mais ce n'est pas le régime capitaliste qui est mis en question. Moi, je crois que c'est la structure d'une université, monarchique, autoritaire, qui ne veut pas d'une administration qui leur offre une chose d'en haut. Ils veulent que ce soit eux-mêmes qui gèrent leurs propres affaires. Mais ils n'ont pas mis en question le capitalisme.
Je voudrais poser une question pour Radio Genève. Je voudrais vous demander quelque chose. Si ce soir, exactement, vous ne pensez pas que ce ne sont plus des revendications, mais simplement un problème de régime.
Hubert, attention.
Non, non.
C'est un problème de société.
Radio Genève, voilà. Ça va.
J'estime personnellement que c'est un problème de société. Qui a une espèce de chapeau, d'énorme chapeau qui coiffe tout le monde. Et que,
je vous en prie,
de façon très indéfinie, on essaye de réagir contre ça, sans savoir très bien quoi mettre à la place. Beaucoup de gens ne savent pas très bien par quoi remplacer, mais je crois que...
Moi, je sais de quoi remplacer. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, de ces vieux politiciens, de ces politiciens professionnels, qui s'appelle Guy Mollet, on a été appelé, n'oubliez pas, Daladier encore en 1958. Nous n'en voulons plus.
Les étudiants.
Monsieur,
étudiants,
le pouvoir étudiant existe.
Les étudiants se sont simplement révoltés contre les coups de matraque. Et après avoir pris des coups de matraque,
je suis pas d'accord.
Alors, les matraques sont venus après l'occupation. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment s'est fait ce mouvement?
Le mouvement du 22 mars de Ben Condé est né.
Le mouvement du 22 mars, c'est un mouvement simplement. C'est un mouvement qui avait pour but d'obtenir des revendications, une participation des étudiants à la gestion de l'université. Il n'avait pas pour but de démanteler l'université capitaliste. Il avait pour but de contester l'autorité sacro-sainte des doyens, des recteurs, des professeurs, un programme toujours figé, des conditions de travail catastrophiques. C'était une révolte corporative et corporatiste.
Bon, maintenant, ceci dit, expliquez-moi.
Maintenant que le mouvement s'est étendu à je ne sais pas combien de millions de travailleurs,
voilà. C'est une affaire politique.
Voilà. Le problème est la conscience floue, mais conscience certainement, d'un problème de société qui dépasse le cadre des revendications classiques et qui dépasse l'action traditionnelle des syndicats et des partis politiques.
Si vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités, je voudrais que la classe ouvrière aille beaucoup plus loin, aussi loin que vous le dites, mais moi je soutiens qu'à l'heure actuelle, jusqu'à preuve de contraire, elle occupe les usines parce que réellement elle sait que depuis le 13 mai, devant 800 000 personnes là, elle a pris conscience d'un mouvement de force incontestable, elle a su que finalement elle était assez puissante, et de ce fait, sur cette position de force, elle veut obtenir quelques revendications, elle n'en démordra pas. Bon, mais alors, cela dit, elle ne veut pas jeter bébé avec l'eau du bain, oui, elle veut garder la société
actuelle. Je vous réponds, je viens bien de spécifier qu'il s'agit d'une conscience qui est encore floue, qui n'est pas défini. Et les ouvriers n'ont pas le temps de mijoter ça pendant 3 mois aux usines en n'ayant rien à manger. Et alors, je m'excuse de vous dire que votre position, si vous voulez, est quand même relativement une scission avec la classe ouvrière et qu'elle est très regrettable. Parce que justement, si les étudiants n'ont que des revendications corporatives et s'en tiennent là, eh bien, je trouve qu'ils manquent au devoir qu'ils ont à l'heure actuelle de soutenir par une simple présence, par une simple discussion, même difficile à orienter, la classe ouvrière, et essayer de leur apporter ce qu'ils ont, eux, en tête, même s'il leur manque des tas de choses.
Je constate des faits, mais pourquoi voulez-vous fermer vos yeux devant des faits? Les faits, c'est que la majorité des étudiants ici ne veulent pas la révolution, dans la mesure où ils veulent passer leurs examens. Si vous sondez les âmes, eh ben les étudiants veulent leurs examens.
Monsieur,
alors, voilà l'ampleur
de la bouche de révolution. Oui.
Mais moi, j'en ai pas plein à la bouche. Non, mais ils n'en veulent pas.
Monsieur, attention, nous sommes des gens pacifiques. Il s'agit de savoir avant tout ce que vous entendez par révolution.
Encore une fois, je dis que les étudiants n'entendent pas par révolution la révolution, le balayement de la société capitaliste. Ils entendent par révolution simplement s'occuper dans l'université de leurs propres affaires, ne plus dépendre de programmes démentiels, diminuer le terrorisme de l'examen, atténuer la force du rapport maître-esclave, maître-élève. Voilà.
Écoutez, moi j'ai l'impression, monsieur, qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de gens en France qui veulent une insurrection.
Non. Bien, c'est ce que j'ai dit.
Une insurrection, mais je crois qu'il y en a énormément qui veulent une révolution. Sans savoir exactement quelle forme elle prendra,
beaucoup de gens,
même s'ils ne veulent pas une insurrection armée, parce qu'il est quand même extrêmement difficile de foutre tout en l'air d'un seul coup quand on ne sait pas par quoi le remplacer. Il y a beaucoup de gens qui veulent une révolution, et si cette révolution n'est pas une insurrection, elle prendra peut-être, je n'en sais rien, la forme d'une espèce de révolution permanente.
Monsieur, surtout bon. Pas de guerre civile.
Donc vous pensez que...
Justement,
je suis pour notre pays.
Justement,
c'est... La majorité du peuple français veut une révolution.
Une révolution oui. dans ce sens-là.
Alors, premier point, qu'attend la classe ouvrière pour balayer ses dirigeants
qui ne lâchent pas eux. Le grand entre nos mains.
Écoutez, il ne s'agit pas de dire qu'attend la classe ouvrière, parce que je vais vous donner un exemple. En 14, il y a des ouvriers français qui ont dit qu'attendent les ouvriers allemands pour balayer leurs dirigeants, et des ouvriers allemands qui ont dit qu'attendent les dirigeants français pour balayer leurs dirigeants. Et ils sont partis tous les deux à la guerre, un contre l'autre. Et je suis désolé d'avoir rappelé que Jouot a prononcé l'éloge funèbre de Jaurès en disant « Maintenant, je pars rejoindre mes camarades sur le front ».
Oui.
Il ne s'agit pas d'attendre chaque fois qu'il y a un contact qui s'est produit et qui est absolument nouveau en France et qui est enfin peut-être le premier phénomène humain à l'échelle des agglomérations urbaines insensées où nous vivons, c'est cette espèce de rapprochement spontané entre les gens. Et je crois que où qu'on soit et qui qu'on soit, on a le devoir de l'exploiter comme on peut et où on est.
Donc on peut susciter les conditions de maturité. On peut susciter les conditions. Même si c'est pas mûr, on peut les accélérer.
Il faut le faire comme on peut, là où on est. Il faut approfondir ce rapprochement pour tendre à une maturité justement de tous ceux qui sont actuellement unis sans très bien savoir pourquoi. Il y a entre autres, à mon avis, une action que peuvent avoir les étudiants, c'est un programme d'information économique. D'informations sur toutes les faiblesses et l'état économique du régime actuel.
Bon, il y a un mouvement révolutionnaire à un fer de lance militaire. Où est le fer de lance militaire d'une révolution? Une armée de civils. Armée.
Vous parlez de la révolution armée, monsieur.
Mais est-ce qu'il y aura une révolution sans effusion, vous croyez?
Oui.
Vous croyez que le patronat va lâcher le morceau comme ça? Il envoie ses flics.
Non, vous êtes dans l'erreur.
Il va accorder ça gratuitement.
Non.
On est pour des philanthropes, peut-être.
Il a lâché en 36 pour un mouvement.
Non, monsieur.
Il n'a rien lâché du tout. Il n'a rien lâché en 36.
Avec une grève générale.
Justement, il n'a rien lâché en 36.
Avec une grève générale, nous paralysons le pays totalement.
Et alors, il va vous accorder. Il va accorder quoi?
Au bout de 8 jours et de 10 jours, le gouvernement de banquiers que nous avons en ce moment... Ils prennent leur portefeuille sous le bras et ils s'en vont.
Tiens, oui. Moi je dis que le gouvernement de banquiers continue à toucher son argent parce que jusqu'à la fin de leur jour et amène leur CRS s'ils sentent que leur futur fils...
Messieurs, vous savez qu'il y a un malaise en ce moment dans la police et dans les CRS qui font... Enfin, la police, les forces qui font partie du ministère de l'Intérieur. Ils commencent, ils flottent, ils regardent. Pourquoi? Eh bien, peut-être justement parce qu'une révolution sanglante est peut-être à notre porte. Mais il y a mieux. L'ouvrier, c'est toujours lui, n'est-ce pas, qui fait la guerre. Le travailleur. Et nous ne voulons pas d'un affrontement armé. C'est pour ça notre seule force et la grande force. C'est la grève générale.
Combien de temps peut-elle tenir?
Elle peut tenir plus longtemps, mais 8 jours, 10 jours, nous paralysons tout le pays. Vous savez ce que ça veut dire, c'est très grave. Exception compte des mesures de sécurité, station de pompage pour ne pas laisser noyer les mines, etc. Ravitaillement de première nécessité pour la population. Mais, monsieur, croyez-moi, le gouvernement, il sera assez sage pour ne pas attendre à ce moment-là que l'ouvrier descende dans la rue. Parce que
même un gouvernement de type comme le général de Gaulle,
justement,
fondé sur
il s'en ira au bout de 10 jours s'il y a une grève générale bien organisée. Mais nous n'en arriverons pas là. Pourquoi? Parce que les syndicats, les dirigeants des syndicats, pusillanimes, poltrons, inféodés aux partis, qui nous, toujours ces mêmes partis, qui nous ont fait tellement de mal, hein, et qui sont prêts, encore une fois, à se servir de ce catalyseur, c'est un mot, n'est-ce pas, que j'emploie, mais je sais ce qu'il signifie, ce catalyseur du mouvement étudiant, pour vouloir, encore une fois, s'imposer. Voilà. Eh bien, nous disons non. Vous parlez tout à l'heure du pouvoir étudiant. Le pouvoir étudiant en France existe. C'est une force latente. C'est un potentiel extraordinaire. Pourquoi?
parce que ce ne sont que des jeunes gens propres, honnêtes et neufs. N'allez quand même pas me parler de ces vieux politiciens professionnels qui nous ont mis deux guerres effroyables sur les reins au cours d'un demi-siècle. Hein ? Nous avons eu la grande révolution française. Il y a eu des généraux de 24 ans. Pourquoi demain, il n'y aurait pas un pouvoir étudiant qui, cette nuit même, se déclarait compétent et parallèle au pouvoir actuel et qui décrète immédiatement une augmentation de 5% des salaires pour...
5%.
5%, oui monsieur, c'est raisonnable et c'est faisable. 5% des salaires.
Mais les syndicats demandent plus.
Monsieur, je lis la vie financière, je suis un ouvrier, je connais un peu l'économie, je sais jusqu'où il faut aller. Et
mais
c'est
pas une
révolution,
bonne... ça.
Taisez-vous, s'il vous plaît, vous prendrez la parole après. Et c'est un bon, c'est d'une bonne manœuvre, parce qu'aussitôt, ils ont 12 millions de travailleurs derrière eux. Et à ce moment-là, le pouvoir étudiant est établi.
Et alors,
si les partis ont des espérances, monsieur, maintenant je vais devenir méchant, eh bien le pouvoir étudiant, le lendemain, il étouffera ses espérances en faisant rouler peut-être 500 ou 600 têtes.
Des têtes de qui ? Des partis professionnels, des politiciens.
Oui, monsieur.
Mais est-ce qu'en donnant 5% d'augmentation de salaire, ça s'appelle une révolution ? Est-ce que le remplacement du gouvernement des banquiers par le gouvernement des étudiants est un progrès révolutionnaire ?
Oui.
Oui ?
Et
en
je
quoi
viens de le dire.
En
ce
quoi
sont des hommes qui ne sont pas corrompus.
Et alors ?
Ils vont
Il peut
faire...
y avoir des hommes propres qui continuent à salir la majorité des gens malgré leur propreté. Il peut y avoir des gens propres comme Mendès France, il est assez propre finalement. Mais il veut maintenir les ouvriers dans leur merde.
Monsieur.
Monsieur Mendès France est un homme propre. C'est un bon bourgeois.
Oui, mais Mendès France.
Il est contre l'effusion de sang.
Il a arrêté la guerre
d'Indochine.
Mais il a pris ça pour un match de boxe, comme un match de boxe. À telle et telle date, j'arrêterai.
Mais il a réglé l'affaire d'Indochine.
Alors, ne nous parlez pas de tous ces messieurs-là. La classe ouvrière, on a par-dessus la tête.
Oui, mais la jeunesse, c'est pas un programme, vous savez très bien. Il ne suffit pas d'être jeune. Il y a des jeunes vieillards.
Ah, parce que ces jeunes gens-là, parmi eux, il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas de financiers, il n'y a pas de sociologues.
Mais quelles sont les forces qui les sous-tendent ? Quelles sont
les
qui représentent des forces, là ? Ils vont pas s'ériger en gouvernement
comme ça.
Ils sont
une force.
Avec la bénédiction des ouvriers. Les ouvriers les considèrent comme des petits-fils de bourgeois et des fils de bourgeois.
Non, monsieur, savez-vous ce qui se... Enfin, non, vous n'avez pas assez réfléchi. Eh bien, ceux qui savent et qui ont reconnu que c'était une force, c'était justement les jeunes travailleurs qui ont dépassé les syndicats. Et de quelle façon ? Vous voulez une preuve ? D'ailleurs, ces vieux rouillés qui a à la tête du syndicat et qui écoutent toujours les mots d'ordre de tous les partis, eh bien, ils disent « Oh, large liberté de manœuvre et de décision au comité de grève ». Ils sont dépassés par le mouvement. Voilà, les jeunes travailleurs, solidarité.
Mais à ce moment-là, il faut faire un gouvernement étudiant et travailleur.
Oui.
Mais pas étudiant seulement.
Il faut le faire.
Voilà.
Pourquoi qu'on le ferait pas ?
Les 5%, il faut les écarter. C'est pas 5% qu'on veut, c'est 100%.
C'est de la sottise.
Mais alors, c'est pas une révolution, 5%.
Mais vous faites pas une révolution pour de l'argent. Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais alors, une révolution pour un
Il fait une révolution pour avoir le double. Mais qui vous la donnera ?
Mais qui vous donne 5% d'augmentation de salaire ?
Mais vous n'avez jamais dit ça, monsieur. Comprenez ce qu'il vous a dit.
Le 24 mai, 800 000 personnes dans la rue, transistor à la main, écoutent De Gaulle.
Français, au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction.
Daniel, comme il m'a dit, c'est très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Qu'êtes-vous devenu ?
Ben, j'étais dans Paris, j'ai continué à militer à l'intérieur du mouvement du 22 mars et je suis à l'intérieur de la manifestation aujourd'hui.
On a prétendu que vous étiez retourné en Allemagne depuis votre retour à Paris, est-ce exact ?
Je suis là, ici, aujourd'hui. Ça, c'est une chose sûre maintenant. Ce qu'on prétend où je suis, on peut prétendre 36 choses, moi je veux bien.
Avez-vous des contacts avec la police? Est-ce qu'on vous a demandé de repartir? Est-ce qu'on vous tolère ici? Qu'est-ce qui se passe?
Quelle
est votre situation?
Ma situation est que je suis en France. J'ai toujours ma carte de séjour, d'ailleurs, qui est dans ma poche, ici, vous voyez, qui n'est pas radiée. Donc je suis en France. J'ai passé la frontière. Je suis à Paris. Je manifeste à Paris. Et un point, c'est tout.
Quel est votre objectif pour l'instant?
Continuer le combat politique tel qu'il a été défini sur les bases du mouvement du 22 mars.
Quelle était votre réaction après le discours du général de Gaulle?
Je crois que la seule chose politique qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la peur qui fait planter un mouvement révolutionnaire.
Les manifestants fuient maintenant de la place Edmond-Rostand. Il semble qu'il y ait une charge assez violente, oui. Maintenant, c'est le matraquage. Les manifestants refluent vers la place de la Sorbonne. Les ambulances suivent derrière. Ça va?
Ça va?
Ça va?
La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse, car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés.
Les manifestants sont remontés, chargés sporadiquement, tandis que le corridor fait de même. La place de la Sorbonne est envahie par les gaz. Voilà. Alors, dégagement à la soufflante des manifestants. Ce n'est qu'un début, continuons le combat et les grenades explosent.